Ouais, c'est Frédéric des Yvelines. Voilà, je voudrais rendre hommage à l'UMP, parce que c'est vrai que, bon, dans la Basse, si j'y suis, on est un petit peu méchant avec ces gens-là. Et bah moi, je tiens à leur tirer mon chapeau, parce que l'UMP fait beaucoup, beaucoup pour l'emploi des jeunes. Voilà, vous savez que dans ce pays, il y a un problème quand même avec le chômage des jeunes. Et quand je vois Jean Sarkozy, 23 ans, qui n'a même pas une licence, qui est à la fois conseiller général des Hauts-de-Seine, président du groupe UMP au conseil général des Hauts-de-Seine, et qui va être nommé à la tête de l'EHPAD, eh bien, vraiment, moi, ça m'épate. Ça m'épate. Et je trouve que c'est un message d'espoir adressé à toute la jeunesse de France, à tous les jeunes qui n'ont pas de diplôme. Eh bien, voilà, vous, jeunes de banlieue, jeunes qui galéraient dans vos cités, eh bien, vous n'avez que le bac. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Grâce à l'UMP, vous n'allez pas passer votre vie à vous casser le dos dans la maçonnerie, dans le BTP. Non, vous allez pouvoir postuler au poste de conseiller régional dans votre conseil régional. Et vous serez peut-être nommé président du groupe EMP dans ce conseil régional. Et en plus, c'est aussi un message d'espoir pour les gens comme moi, qui sont un petit peu plus vieux. Moi, j'ai 29 ans, j'ai deux licences. Eh bien, si on, par comparaison, on fait des petits calculs, ça veut dire que je peux être nommé ministre. Voilà. Alors j'attends que l'Élysée me contacte. Hein. Voilà, je pense qu'ils retrouveront mes coordonnées par vous, puisque les RG, ça sert à ça. Voilà, donc j'attends d'être nommé ministre, puisque voilà, j'ai 29 ans de licence, donc c'est super quoi. Merci l'UMP, bravo, bravo. Allez, ciao.
Voilà, donc je suis apprentie près de Nantes. Je viens de recevoir mon bulletin de paye seulement aujourd'hui pour bien commencer le mois. Donc voilà, je fais 41 heures par semaine pour un contrat de 35. Là, je vois, j'ai 12 heures supplémentaires de payé et 5 paniers repas. Donc je suis dans le bâtiment et je mange 5 midis dans le mois. C'est énorme. Je coûte trop cher à mon patron, peut-être, j'en sais rien. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a d'autres apprentis aussi qui sont sûrement dans le même cas que moi. Et franchement, c'est vraiment décourageant, quoi. Donc on a des patrons qui gagnent des primes, qui sont de l'argent sur notre dos. Et bah voilà. L'inspection du travail, bah, ça sert à rien, parce que de toute façon, si on les appelle, après on se fait saquer tout le reste de l'année, on n'aura pas nos examens, donc bah, on ne peut pas bouger. C'est comme ça. Vive la France, hein, c'est génial, vraiment. J'adore.
Oui, je voulais vous avertir ou vous faire part d'une publicité que j'ai vue ce soir en rentrant par le RER. Voilà, donc dans le wagon dans lequel j'étais, au-dessus de ma tête, il y avait suspendu une petite publicité, enfin assez grande pour qu'on la voie. Et au premier plan, il y avait une main masculine très, très soignée qui tenait une cravache ou plutôt un fouet en cuir noir. Et sous cette image, il y avait un message publicitaire qui disait besoin d'une formation en management, et puis toutes les formations avec le numéro du site. Et en dessous, c'était marqué se former, c'est avancer. Eh bien, moi, je trouve que quand même, ils font fort les publicitaires, hein. Quelle invention, quelle ingéniosité, quel monde, c'est formidable.
Salut à tous les AMG et salut à toi Daniel. Voilà la question brûlante est posée ce soir au 20h France 2. On ose demander, et tous en se marrer, Jean Sarkozy est-il pistonné ou légitime? Moi je dis chapeau, hein. Fallait poser une question pareille, hein. Déjà que l'État se fout de la gueule du monde, mais les journalistes font pareil maintenant. Ouais. Aujourd'hui, un mec qui sort de l'école avec un bac général, à part Manut dans la grande distribution, où puisse toucher Quick, et encore le tout au SMIC et en trois quarts temps, on lui propose rien d'autre. Et là, on nous explique que c'est un providentiel, et qu'il est plus talentueux que son père. Et le plus drôle, tu vois, si on a envie de rigoler, c'est que le sujet d'avant concerne les comparutions immédiates des casseurs de ce week-end. Pujadas s'étonne, entre autres, que ce soit des personnes qui n'aient pas de casier judiciaire. Et il se demande, mais qu'est-ce qui les pousse à aller casser les vitrines des banques? Il se demanderait. Bah, qu'est-ce qui les met en rage, ces gens-là? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils mettent le 20h de France 2 et qu'ils ont le bac et qu'on leur propose pas des présidences X ou Y. Peut-être ça le problème, quoi. Salut.
Salut Daniel, ce petit message pour dire ce qui s'est passé à Poitiers. Donc ce matin, entendu sur France Inter, trois casseurs condamnés à de la prison ferme. Donc visiblement, certains journaux sont aux ordres de la justice qui elle-même est aux ordres de la police. Donc, rassurez-vous, Poitiers n'est pas en ruine, Poitiers n'est pas aux mains des guérillas, c'est non, les gens condamnés ne sont pas des casseurs. Je peux témoigner qu'hier, la justice expéditive a condamné hier des innocents, puisque les 7 prévenus ont tous été condamnés, dont 3 de la prison ferme. L'ensemble des personnes interpellées ont été en fait raflées, soit pour une simple présence à la manif, soit à un concert le soir, voire même certains interpellés le lendemain matin. Et il y a même eu des gardes à vue de simples spectateurs de spectacle, c'est dire le niveau. Mais nous avons une pensée en fait pour Sam, hein, ses amis et camarades de lutte avec moi. Malgré des preuves le disculpant, des photos, des témoignages d'élus locaux, Sam fait partie des condamnés à de la prison à un mois ferme. Donc entendre sur vos ondes que Sam est un casseur, c'est dur à entendre. La police et la justice de Poitiers veulent avoir son tarmac. Elle règle malheureusement ses comptes avec des militants de Poitiers, profite de débordements pour criminaliser le mouvement social. Donc aujourd'hui, on est triste pour Sam, pour sa famille et pour ses amis. Donc s'il y a des gens qui écoutent les ondes, qu'ils fassent passer ce message de soutien à Sam, actuellement en prison, et aux autres injustement condamnés, donc la lutte continue. Donc message pour Sam, on pense tous à toi.
Bonjour, je critique quelquefois vos émissions pour un gauchisme un peu excessif et sans limite, mais là, cette fois, je dois dire que vous êtes très utile. Si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer, car en plus, vous avez le courage de le faire au moment où il y a des gens assez indignes pour vouloir rester ministre, malgré un tourisme sexuel passé. Je dis ça, ce serait n'importe quelle autre personne, je dirais la même chose, mais que pour vous nous faire, parce que franchement, cette jeune fille, a une voix tellement émouvante, c'est une gamine, franchement, elle m'a émue aux larmes.
Salut à tous, c'est Xavier Mathieu des Conti. Notre combat continue aujourd'hui, car bien sûr, nous voulons faire annuler la condamnation pour exemple des 6 d'entre nous. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui concerne tous les salariés et tous ceux qui sont attachés aux libertés publiques. Le jugement du tribunal de Compiègne a rétabli la terrible loi anti-casseur abolie il y a 28 ans par Banater et transforme en délinquant potentiel n'importe quel manifestant. C'est une menace contre tous ceux qui, dans ce pays, veulent résister aux attaques qu'ils subissent et à l'injustice. Mais pour continuer son combat, nous avons absolument besoin d'aide. D'abord financière, car se défendre coûte cher, très très cher. Alors on vous demande d'envoyer vos soutiens par chèque à l'ordre de Solidarité Continentale à l'adresse suivante. Solidarité Continentale, 35 rue du Tour de Ville, 60 280 Clairois. Et puis on a aussi besoin d'aide d'artistes, pour pouvoir mettre sur pied un grand gala de solidarité. Pour cela, téléphonez au 06 11 02 92 19, c'est mon numéro. Et je voudrais finir par une petite phrase de mon ami Domota qui m'a appris « À Sam nous qualité, à Sam nous qu'à gagner. Ensemble nous lutterons, ensemble nous gagnerons. » Merci à tous.
Et merci à toutes et à tous pour ces messages, un message de Xavier Mathieu, le porte-parole des Compti que vous connaissez. Je répète son numéro de téléphone, le 06 11 02 92 19. Et l'allusion qu'il fait à De Mota, Elie De Mota, du LKP de Guadeloupe, c'est que le mouvement est reparti, vous le savez peut-être, en Guadeloupe, puisque les accords intervenus ne sont pas tous appliqués. Il y a des troubles en Guadeloupe qui montent, des manifs importantes qui se développent et qui se confirment. Voilà, c'est donc à suivre. Et aujourd'hui, on va le suivre justement, hasard du répondeur de là-bas, si j'y suis, Xavier Mathieu, mais pas tout seul. Xavier Mathieu, c'est celui qui a été très 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 apprécié par nombre de médias, parce qu'il avait traité de racaille la direction de la CGT, alors qu'il est cégétiste lui-même. Et évidemment, ça n'avait pas manqué de lui valoir un très grand succès auprès de certains journalistes et de certains médias qui se sont évidemment empressés de mettre le pied dans la faille. Eh bien, on va passer du temps aujourd'hui avec lui, mais pas seulement avec d'autres. C'était le 17 septembre dernier, et ce jour-là, les Conti rejoignaient à Paris une manifestation. Et dans le train qui les conduisait à Paris, il y avait François Ruffin, de là-bas, si j'y suis, qui était là, pourquoi donc? Eh bien, pour rechercher Bernard. François recherche Bernard, désespérément jusqu'à 16h. Il s'agit évidemment, vous l'avez compris, de Bernard Thibault. François cherche Bernard désespérément. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour tout le monde, les auditeurs de la Bastille. J'y suis. Ici Corinne du repère de la ville de Caen, dans le 14 Calvados. Je vous appelle pour vous informer que de manière inhabituelle, le repère aura lieu un mercredi ce mois-ci. Ce mercredi 14 octobre à 20h30, pour cause de spectacle le lendemain. Le thème de ce mois-ci va être, dans un premier temps, un léger débriefing sur les nanotechnologies. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels sont leurs dangers? Et le thème principal sera la valeur travail. Alors la valeur travail, ça englobe beaucoup de choses et on en parle énormément actuellement. Et exceptionnellement, c'est Monsieur Nicolas Beignès, que bon nombre de Canets connaissent, qui va complètement animer tout ce débat, puisque je ne pourrai être présente avec vous. Donc, je compte sur vous au News, le mercredi 14 octobre à 20h30 à Caen, pour le repère du mois d'octobre. Au revoir.
Bonjour, un petit mot pour vous informer que TDF, entreprise qui diffuse entre autres France Inter, licencie 600 personnes, soit un quart du personnel, dans une totale indifférence. TDF, détenu majoritairement par un fonds de pension américain, licencie pour augmenter ses profits sur une entreprise qui fait toujours des bénéfices. Une entreprise de plus qu'on met à mal et toujours avec l'appui des services publics. Voilà, une révolte de plus. Merci Daniel pour ton émission. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Alors c'est Pierre de Nancy pour vous annoncer la tenue de notre prochain Café Repère, qui aura lieu demain, mercredi 14 à 20h, au bar Le Royal, rue Mont-Désert, à Nancy. Nous proposons de parler de l'actualité récente, la construction européenne, le prix Nobel de la paix et les syndromes des nombreux titaniques qui voguent encore sur nos sociétés occidentales. Donc rendez-vous demain à 20h au bar Le Royal, à Nancy. Ciao, ciao, à demain.
Oui, bonjour, c'est Alain à Sissac, dans le Médoc. Je voulais juste faire un petit commentaire et dire il avait bien raison, sinon quand il avait, à propos du mariage de Jean Sarkozy, dit qu'il avait de l'avenir ce petit. Il ne s'était vraiment pas trompé. Allez, au revoir.
Excusez-moi, vous avez vu Bernard Thibault?
Il est là? Ça fait longtemps qu'on le cherche.
Excusez-moi, excusez-moi, je cherche Bernard Thibault, vous l'auriez vu. Tout ensemble,
ils ont tout fait pour que ça s'effondre. C'est nos confédérations qui n'ont pas fait en sorte de continuer ce qui était parti.
Ça tu le dis à Thibault?
Je dis à qui?
Excusez-moi, je cherche Bernard Thibault.
C'est quoi qui c'est?
À la piscine.
Pardon, il est au MEDEF là. Il est passé avec le patron de la Thibault. Non, il est avec Sarkozy là, il doit être avec Sarkozy en train de déjeuner.
C'est pas les idées, c'est pas le studio, c'est pas dans les salons pour la situation.
Il y a deux orientations dans la CGT depuis toujours. Il y a une orientation, qu'on va dire, de collaboration de classe, de syndicalisme d'accompagnement, etc., qui est le courant qui a la direction confédérale et à l'intérieur de la CGT, t'as un courant de lutte des classes. T'as vraiment affrontement entre ces deux courants.
Excusez-moi, je cherche Bernard Thibault. Vous n'auriez pas vu Bernard Thibault?
Ben écoute, il est pas là, Thibault. Non, il est. Il avait rendez-vous avec Sarkozy aujourd'hui.
C'est ton patron qui vient pour venir là, tu peux continuer.
Je voulais avoir...
Dans beaucoup d'endroits, on l'a cherché pas mal, mais on l'attend toujours.
Excusez-moi, vous avez vu Bernard Thibault? Excusez-moi, vous avez vu passer Bernard Thibault? Je cherche Bernard Thibault, vous l'avez vu?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bastille, j'y suis, avec François Ruffin, recherche Bernard, désespérément.
Il est 7h30 en gare de Compiègne, une centaine de Continental qui sont rassemblés avec des autocollants orange qui attendent pour prendre le train vers la manif à Paris Nord.
Chacun se colle l'autocollant dans le dos.
Ah oui, c'est important.
Continental.
On en a eu tellement en enfer, on en reçoit,
on
en... On
prendra quelque chose de lisse pour que tu aies...
T'es bossu, Jojo. Tiens pas l'autocollant.
Il y en avait une multitude d'autocollants.
Il y avait il y a 200 mecs, quoi.
D'inscrits,
mais...
D'habitude,
il y en a 200 qui payent, il y en a 400 qui montent, en général.
Ouais,
tu sais, moi, pendant 6 mois, j'ai très très mal dormi. Je suis quelqu'un de bideux, tu vois, donc... Souvent, quand il y a des trucs comme ça, des manifs, des machins, je m'inquiète toujours, est-ce qu'on va être assez, est-ce qu'il va y avoir du monde, est-ce qu'il va rien se passer de mal. Je suis un bileux, moi, donc cette nuit, j'ai encore dormi. Je suis obligé de me lever à 1h du matin pour prendre l'exomil parce que j'arrivais pas à dormir. Les goudeurs nous ont téléphoné en nous disant on fait une manif le 17, joignez-vous à nous, et puis voilà, donc on a pris le train en marche, manifester avec nos copains de goudeurs, c'est bien.
Dans le deuxième train, là, il y a plus, je suis sûr qu'il y a plus de 400 personnes.
Presse à France Télécom, mais pas seulement, on l'a entendu, on l'a vu, j'ai mal à mon travail, le malaise est profond, plus de 1000 emplois supprimés chaque jour dans le pays, selon un sondage BVA, pour 63% des Français, la politique menée est mauvaise et 60% estiment que le plus dur reste à venir. Oui, 60% de mécontents. Mais 40% sont tout à fait ravis, ce qui constitue une grosse minorité, et nous ne sommes pas forcément contre les minorités, une minorité parmi lesquelles une petite minorité, une sur-minorité de financiers se sont gavés, se sont saoulés de profits, et maintenant les salariés trinquent. Alors, quelle réaction, quelle riposte? On s'étonne de tant de résignation et tout le monde répète haut ou bas que font les syndicats. Chez Lip, les bobos posent la question et s'énervent. Faut que ça pète, répètent les maquisards de salon. Grève générale, proteste de courageux anonymes sur Internet. Les Che Guevara des forums appellent à l'insurrection. Planqués sous la cagoule de leur pseudo insurrection, sinon rien. Sinon c'est corporatisme, c'est sectoriel, c'est égoïste. Le grand soir, sinon rien, c'est boum ou je reste couché devant l'écran de mon ordi. Alors, c'est ceux-là qui ont été absolument ravis de la sortie de Xavier Mathieu, ce porte-parole des Conti, lorsque, au mois d'août, il a, on peut dire, insulté le représentant de la CGT, le leader de la CGT, Bernard Thibault, en le traitant de racaille. On a voulu savoir quel était, s'il y avait, et quel était ce malaise à l'intérieur du premier syndicat quand même en France, dont nous parlons souvent dans la basse, j'y suis, la CGT. Et François Ruffin a voulu rencontrer tout simplement Bernard Thibault pour lui poser un certain nombre de questions, pour lui faire part de ce qu'il entend, de ce que nous entendons tous très souvent dans ces manifs. Bien évidemment que depuis la question de savoir où va la CGT et la question des tensions entre la base de ce syndicat, comme de tous les syndicats, et la direction du syndicat a toujours été évidente et très grande. Mais aujourd'hui, on se demande jusqu'où cette tension va-t-elle. Que veut la CGT? Où va la CGT? Au moment où? Mais soir et matin, chez Lip, on dit, mais que fait la CGT? Que font les syndicats? C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Recherche Bernard, désespérément.
Délégation, délégation, délégation. Alors pour revenir sur ce conflit social très médiatisé, nous sommes en ligne aujourd'hui avec son leader syndical, Xavier Mathieu.
France Info, 17 août 2009.
Finalement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette mobilisation ?
Le moment le plus fort, c'est quand on est parti de Continental le 19 et qu'on est parti faire notre manif, on ne savait pas ce qu'il y avait à Compiègne. On a fait 5-6 km à pied, on arrive au cours Guillemère à Compiègne et les gens s'écartent. Ils nous applaudissent, t'as les gens qui pleurent. Quand on arrive à Compiègne, il y a 10 000 personnes qui nous attendent. Putain, t'as les poils qui se dressent sur les bras, t'as les larmes aux yeux. C'est peut-être ce jour-là que je me suis découvert et que je me suis dit, putain, il faut y aller. Et puis tu vois, même aujourd'hui, j'ai plus la même vue sur la vie, quoi. Avant, bah, j'étais comme tout le monde, tu vois, c'était mon match de foot à la télé, c'était ma gueule, tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer quelque chose, j'ai envie de... Alors quoi faire aujourd'hui, j'en sais rien. Mais...
Vous parlez bien, on vous a vu dans tous les médias, la CGT, votre syndicat ne nous a rien proposé ?
Non, la CGT, on ne les a pas vus. La CGT, les Thibault et compagnie, c'est juste bon qu'à frayer avec le gouvernement, justement à calmer les bases, ils servent jusqu'à ça, toute cette racaille. Ça fait 4 mois que je ronge mon frein, tu vois, que je dis rien, parce que je suis obligé, tu vois, par rapport à mon conflit, par rapport aux ouvriers, par rapport aux collègues, tu vois. Thibault, on l'a jamais vu, on n'a jamais eu un appel.
Jamais au téléphone.
Mais jamais, mais attends, mais même Thibault, tu peux, trouve-moi un interview écrit ou verbal où il cite le mot Continental. Jamais.
Voilà, alors cet entretien a fait grand bruit entre Xavier Mathieu et les médias qui aussitôt sont régalés de cette sortie, de cette verve aussi formidable de ce porte-parole des Conti, et aussitôt il a eu droit à des portraits, à de longs entretiens. Ce qui nous a intéressé avec François Ruffin, c'est d'essayer de voir si c'est un énergumène parmi d'autres, un de ces leaders fort en gueule comme les luttes sociales en ont produit beaucoup, ou bien si c'est quelque chose de plus profond au sein même de ce syndicat au moment de ces destructions massives d'emplois auxquelles nous assistons, ces fermetures innombrables, on les compte même plus, on n'en parle même plus tellement, ça s'est banalisé, d'entreprises. Entre la base et les directions de ces syndicats, quelle est l'ampleur du fossé? Et puis aussi, quelle est la politique de ces syndicats? Où vont-ils? Où va ce syndicat principal qu'est la CGT, si l'on se souvient de cette année que nous venons de passer, avec de formidables mobilisations au début de l'année et puis qui sont allées en s'amenuisant, si bien qu'aujourd'hui, alors que on a tous compris que pour les banquiers et les financiers, la crise est finie, si toutefois elle n'a jamais existé, eh bien pour le reste, c'est quand même assez préoccupant, très préoccupant, si l'on en croit au moins les sondages. Mais pour croire les sondages, il faut pas aller dans la rue, il faut pas vivre dans ce pays. Chacun est a tout à fait compris et sent et vit dans sa vie et dans ses jours et dans ses nuits cette crise sociale très profonde que nous vivons. Alors que font les syndicats? Quelle est la riposte? On se pose quand même la question en cette rentrée, en cette fin d'année, face à la baisse du pouvoir d'achat, face à l'augmentation du chômage, face à l'augmentation du chômage chez les jeunes, etc., etc. Où en sommes-nous? Donc, voilà la question posée. On va voir que ce Xavier Mathieu, qui nous a laissé ce message tout à l'heure sur le répondeur de la base où j'y suis, on va voir ce qu'il pense et on va essayer de comprendre s'il est seul ou non.
Donc là, on est dans le train pour Paris, on n'est pas dans un wagon spécialement pour Conti, on s'est assis au fond du train.
Allez-y, ma petite dame.
Avant la mauvaise nouvelle qui est tombée au printemps, toi tu militais dans l'usine déjà ou...
Bon, le 1er mai on y a toujours été. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez marrant, c'est que quand l'usine elle a fermé, je me souviens qu'on a fait des manifs et on a appelé d'autres entreprises à venir avec nous. Et puis il y a les gens de Continental, les ouvriers qui disaient ouais, ils sont dégueulasses, ils viennent pas, ils bougent pas. Et je leur ai simplement rappelé à l'époque que l'usine elle a fermé le 11 mars, il y a eu une manif le 19 mars, il y avait 1200 Continental, mais que 3 semaines avant, il y avait une manif à l'appel contre les licenciements, contre tout ça, et on était 35 de Continental.
En janvier, première manif, la Continental n'est pas frappée. Non. Il y a 35 Continental qui vont à la manif.
Ouais, ouais.
Le 19 mars, Continental est frappée. Et du coup, il y a 1200 personnes à la manif.
Ouais, 1200 personnes. Et puis, nous, au moins, à Conti, on s'est battu à 1120 jusqu'au bout. S'ils avaient fait ça en 3-4 fois, on était morts.
Donc, tu veux dire que c'était une chance que la direction de Continental décide de fermer toute la boîte d'un seul coup?
Ah oui, c'est une évidence. Tout le monde sait très bien que s'ils avaient annoncé la moitié de la boîte, il y a l'autre moitié qui se serait dit, bah, c'est peut-être pas moi, on se serait pas battu. Pour moi, ils ont fait une connerie monumentale. Oui, d'annoncer la fermeture complète, c'est, s'ils l'avaient fait en 3-4 fois, on était morts. Comme d'ailleurs...
Parce qu'il y aurait eu des divisions parmi les ouvriers. Finalement, si moi je suis gentil avec la direction, peut-être que moi je vais garder ma place. Ce sera le voisin qui partira.
Voilà. C'est... Ce qui est incroyable, c'est que l'usine de Clairoy était rentable. Sauf que le prix du coût de main-d'œuvre à Clairoy, c'est 10 euros. Entre 9 et 10 euros. À Timișoara, c'est 5 euros. C'est ça le capitalisme. Il faut changer le système. Et malheureusement, je crois que... Tu vois, je suis un pacifiste, mais... Ça s'en va au moins. Je crois que un jour ou l'autre, autant pour sauver la planète que pour sauver l'être humain, il va falloir sortir dans la rue. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on ne pourra pas y arriver autrement. C'est impossible.
Alors justement, sur un an, il y a eu plus de 25% de chômage. Il y a eu des centaines de boîtes qui ont fermé, des dizaines de milliers d'emplois industriels détruits. En plus de ça, on a un gouvernement qui jette un peu de l'huile sur le feu avec le travail le dimanche, le gel du SMIC, le repousser l'âge de la retraite et ainsi de suite. On a eu 1-2-3 manifs au printemps, il y a eu 1-2-3 millions de personnes, mais finalement à l'automne on a l'impression que c'est retombé comme un soufflet, que la grève générale n'est pas pour demain, la révolution n'est pas pour après-demain non plus.
D'où là justement le mécontentement entre les bases et les confédérations. Parce que ce qui s'est passé au printemps, c'est pas que ça s'est effondré, ils ont tout fait pour que ça s'effondre. C'est nos confédérations qui n'ont pas fait en sorte de continuer ce qui était parti. Ils ont mis 3 mois pour en refaire une derrière, qu'est-ce que tu veux, tu sais, nous, c'est comme, tu vois, les Contis, aujourd'hui, on est 400, on va être 400, 500, j'en sais rien. Un mal de fou pour les refaire venir. Pas parce que c'est des égoïstes, pas parce que mal, mais parce que ça fait 1-2 mois qu'on les a pu habituer à revenir aux assemblées générales. Mais là, c'est pareil, si tu mets 3 mois avant de ressortir les gens dans la rue, ils reprennent leur petit train-train, ils se disent que, voilà, et puis en fin de compte, ils se disent, bah, en fin de compte, ça servait à rien ce que j'ai fait. On a arrêté au bout de deux manifs. Voilà.
Ça tu le dis à Thibault?
Je dis à qui?
Bernard Thibault.
Je n'ai pas de relation avec Bernard Thibault. D'ailleurs, même aujourd'hui, apparemment, on devrait avoir la présence de Montebourg, Hamon, Mélenchon, Cécile Duflot, des Verts, même Georges Sarr. Je pensais même qu'il n'était plus dans la vie politique.
Et Bernard Thibault sera là, François Chirec sera là.
On leur a envoyé un courrier pour les y inviter, ouais.
Peut-être que ça serait sympa de rencontrer Bernard, enfin.
S'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, ben voilà, ça continue.
Vous n'avez pas d'autocollant sur vous aussi?
J'en ai dans ma sacoche, oui.
D'accord, vous n'avez pas encore mis...
Pas encore mis tout l'attirail du manifestant en bonne et due forme.
Devant la gare du Nord, les Contis sont arrivés. Et ils ont été rejoints par quelques personnes.
Alors c'est Schindler Ascenseur, c'est le deuxième groupe dans le monde de montage, de fabrication d'ascenseurs et de maintenance d'ascenseurs. Voilà, il y en a un peu partout en France et dans le monde. Alors chez Schindler, ça fait 30 ans, voilà, et puis ça fait aussi 30 ans à la CGT.
En 30 ans de CGT, vous avez vu passer des...
Moi, je suis passé de la CGT de Krasuki, comme on dit, à la CGT de Thibourg, passant par Vianney. Alors c'est vrai qu'on a vu une évolution que moi et un certain nombre d'autres, on ne juge pas très favorable. En tout cas, il y a eu vraiment une émergence d'un discours critique sur la question du vote du non au référendum sur la Constitution européenne. C'est là qu'il y a un certain nombre de camarades et de structures qui se sont posé la question de où va la CGT, on va dire. C'est pas que ça n'existait pas avant, mais en tout cas là, ça s'est formalisé de façon plus globale et plus visible. Le non-référendum, c'était un débat, on va dire, entre guillemets, politique. Là, c'est plus grave parce que c'est sur les luttes, les boîtes qui se battent contre les fermetures, contre les licenciements, parce que les syndicats dans les boîtes, ils se bagarrent, mais ils ont l'impression souvent d'être isolés. C'est-à-dire, nous, ce qu'on pense, c'est qu'à partir des grandes mobilisations qu'il y avait eu en janvier puis en mars, il y avait la possibilité, et quand on dit la possibilité, c'est pas sûr que ça va gagner et qu'on va... Bon, mais en tout cas, il y avait la possibilité d'une généralisation des luttes en partant aussi des boîtes en grève. C'est-à-dire que c'est pas un mythe de la grève générale. C'est, il y a plein de boîtes où ils se sont battus. L'éducation nationale, ils se sont battus des mois. Dans les hostos, ils se sont battus des mois. Chacun tout seul dans son coin. Et il n'y a pas eu les confédérations sur la CGT, mais encore pire les autres, n'ont pas fait le boulot de centraliser les luttes. La grève générale, tout le monde dit, on n'appuie pas sur un bouton pour que ça marche, tout le monde le sait, ça. Mais si on fait aucun pas dans ce sens-là, ça se construira pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu une retombée, c'est évident. Le chômage, ça pèse. C'est jamais gagné, mais si on met pas le premier pas en avant, on est sûr de pas avancer. Le fondement de la CGT, mais ça pourrait être aussi avant ou après, c'est ça, c'est la bagarre, c'est la lutte des classes, comme on dit. Et on a l'impression que la CGT, elle a abandonné ce terrain-là pour privilégier les négociations, les rencontres avec le ministère, des choses comme ça.
La lutte des classes, c'est encore un mot qui est dans le vocabulaire de la CGT ou pas?
Ah ben non, les congrès, on n'en parle plus, c'est même maintenant, c'est plus dans les statuts de la CGT, et on en parle de moins en moins. C'est bien ça qui fait cet écart que constatent tous les militants, et qui est vu même un peu par tout le monde, entre la direction et puis ce qui se passe à la base, où il y a encore une volonté, où ils en découdent sur la lutte des classes.
Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais.
Demandez à une personne continentale. Excusez-moi, vous avez vu Bernard Thibault?
Il est là?
Pardon ?
Ça fait longtemps qu'on cherche.
Excusez-moi, je cherche Bernard Thibault, vous l'auriez vu ?
Qui est Bernard Thibault ?
Ouais.
Il a fait une coupe, regarde, il est parti manger frites.
Non, il est pas là.
Il est là,
hein.
Bernard Thibault.
Je crois pas que ce soir, ce sera là, il va prendre un rappel.
Pourquoi il est pas là ? Hein ? Parce qu'il n'était pas forcément d'accord pour qu'on vienne ici aujourd'hui, hein, Bernard.
Vous êtes venu sans lui, sans son autorisation.
Sans son autorisation ? On n'attend pas une autorisation de Bernard Thibault pour ne...
Et au début, là, qu'on l'a pas vu.
Pardon ?
Si on l'a pas vu, Bernard Thibault, depuis le début. Hein.
Si on attend Thibault pour manifester, on manifestera plus jamais. Hein. Et on l'a appelé, je sais pas combien de fois, il est jamais venu. Hein. Il aime pas ces trucs-là. Il préfère passer sur Canal+, ou un truc comme ça, plus intéressant. Mais c'était prévu qu'il soit pas là, hein, de toute manière. Vous étiez venu pour le voir ?
Ah bah ouais, moi.
Ah bah,
dommage, on aurait bien voulu qu'il soit ici.
Vous pouvez repartir, monsieur. C'est les gens qui sont pas contents aujourd'hui, c'est pas nos... On a eu besoin de personnes pour mobiliser 6000 personnes.
Ah bah merde, je suis vachement déçu.
Ah ouais,
parce que c'est mon idole un peu, Bernard.
C'est votre idole ?
Faut changer.
On va demander aux journalistes de la télé, parce qu'elles sont tous au courant que moi. Excusez-moi, vous avez vu passer Bernard Thibault ? Je cherche Bernard Thibault, vous l'avez vu ?
Hein ? Je sais pas, vous l'avez vu ou pas ?
Moi, je suis un journaliste, vous savez, un mauvais journaliste. Tandis que vous êtes des vrais professionnels.
Ah ouais.
Les gens sont en train de manger des sandwichs, on va leur demander. Excusez-moi, je cherche Bernard Thibault.
Oh, lui.
Il est caché, la honte, il est caché.
On va demander à Olivier Besancenot. Oui. Je cherche Bernard Thibault, en fait.
Je l'ai pas vu, j'ai vu beaucoup de drapeaux CGT, mais je l'ai pas vu.
Excusez-moi, vous avez vu Bernard Thibault ?
C'est pas qui c'est.
À la piscine.
Pardon, il est au MEDEF là. Il est passé avec le patron de la Thibault. Non, il est avec Sarkozy là, il doit être avec Sarkozy en train de déjeuner.
Merde, bah c'est pas, c'est marqué CGT partout. Moi je vois CGT,
ah
je
oui, me dis tiens. Il était plus CGT en fait.
Lui, il est plus CGT Thibault là. Hein.
Je vais aller voir plus loin, peut-être qu'il est plus loin alors.
Ce sera pareil partout.
C'est pas les lignées, c'est pas notre vidéo, c'est pas dans les salons, c'est pas notre situation. C'est pas les lignées.
Excusez-moi, vous avez vu Bernard Thibault ?
Daniel Sanchez, là on se trouve dans votre bureau, au quatrième étage du siège de la CGT à Montreuil, de la Confédération.
Oui.
Moi honnêtement, je vous dire, je cherchais à rencontrer Bernard Thibault. Et je me suis rendu à la manif du 17 septembre, oui, en espérant trouver Bernard Thibault. Donc je l'ai cherché dans la manif, j'ai demandé aux gens s'ils avaient vu Bernard Thibault. Et là, les réactions étaient très vives. C'était Bernard Thibault, il est au MEDEF. Bernard Thibault, il est avec le gouvernement.
Ouais, c'est assez tranché comme propos retenu de la manif. J'étais aussi à la manif du 17 septembre. J'ai pas entendu ce que vous dites. C'est à la fois légitime que des salariés en difficulté souhaitent voir le secrétaire général de la CGT. Et en même temps, ils doivent aussi admettre qu'ils sont pas les seuls à avoir des problèmes. Qu'on est dans une situation où il y a des dizaines de boîtes tous les jours qui sont en difficulté. Donc Bernard Thibault, le 17 septembre, eh ben il était ailleurs. Parce que il y a aussi des grosses difficultés dans le service public, il y a la santé, et puis en même temps, je pense que on peut pas demander quand on est dans la merde à ce moment que pour ça, ça soit la seule raison qui justifie que le secrétaire général soit là. Et puis en plus, l'opinion collective essaie de dire, on a posé les choses de la façon la plus mauvaise si on voulait que le secrétaire général de la CGT puisse participer à une initiative. C'est pas au travers d'un militant qui, même s'il vit une situation difficile, insulte le secrétaire général, qu'on crée les conditions pour que Bernard il puisse venir pour porter son soutien et que sa participation soit pas dénaturée. Et donc, eh ben Thibault, le sentiment qu'on a, c'est qu'il est plus utile pour construire des luttes coordonnées dans ce qu'il fait, à travailler là-dessus, pour des luttes coordonnées. Et la présence de Bernard Thibault, elle n'est pas déterminante. Et c'est pas ça qui donne la dimension de l'engagement de la CGT.
Enfin, ce têtu de François Ruffin est arrivé à la CGT. Il a rencontré M. Sanchez, qui est membre du bureau confédéral, et qui lui a expliqué pourquoi, évidemment, Bernard Thibault ne pouvait pas être à la manif du 17 septembre. En somme, on a compris, on ne peut pas être partout. Eh bien, François Ruffin était à la manif du 17 septembre, pas seul.
Ils sont où les collègues, alors?
Je sais pas, ils sont là. J'en ai un là, un qui est là. Tiens, on va aller le voir. Sinon, je viens de Saint-Gobain à Aubervilliers, donc dans le Vert, et qui travaille aussi dans l'automobile. C'est un peu compliqué, cette manif. Mais enfin, en gros, le printemps, tout ça, c'était des journées un peu bidons, saute-mouton. Hein, tu vois, je veux dire, le 29 janvier, 19 mars, 1er mai, 13 juin. D'ailleurs, ça a fait un bide. En janvier, quand tu circulais dans les cortèges partout en France, il y avait la rage. Il y avait une rage. C'est-à-dire qu'après, de savoir si ça va partir ou pas, tu ne sais jamais. D'accord? Tu ne sais jamais si ça va partir. Mais au moins, tu essayes ou tu n'essayes pas. D'accord? Et là, on le sentait qu'il y avait une opportunité. Tout le monde l'a senti. Je veux dire, même à la conf, ils l'ont senti. Hein, je veux dire, ils le savent. Après, il faut essayer d'y aller. Donc, quand tu démarres un truc, tu es toujours minoritaire. Et tu n'as jamais de garantie que ça va marcher. Jamais. Une grève, quand tu démarres, tu ne sais pas si ça va marcher. Et donc, il y avait l'automobile. Tu avais des centaines de grèves partout, mais chacun dans son coin. Quoi. Et les Googlers, ils ont dit qu'il faut y aller tous ensemble. Cette idée-là, c'est-à-dire que chacun dans son coin, on ne va pas y arriver. Si tu fais le compte, il y a eu des centaines de grèves partout, chacune dans leur coin. Quoi. Il y a eu Sonas, il y a eu PTPM, il y a eu Forestia, Plastic Omnium, il y a eu Wagon, il y a eu aujourd'hui il y a Friskel, il y a Molex, il y a bon, la liste c'est infernal quoi. Je veux dire c'est infernal et c'est toutes des boîtes de l'automobile. Tu discutes avec des gars ici, hein. Ils te disent les sous-traitants. Hein. 3 jours de grève de l'ensemble des sous-traitants, vu la politique des flux tendus, les constructeurs ils étaient à genoux. Je veux dire et ils avaient un moyen.
Ben pourquoi ils ne l'ont pas fait alors les 3 jours de grève, les sous-traitants?
Ah mais ça, le problème c'est que c'est le ciel qui me tombe sur la tête, d'accord? C'est l'horreur, c'est, on le sait, c'est la galère, c'est la misère, c'est, tu vois, c'est tout ça quoi, je veux dire. Et à ce moment-là, tu te dis, mais je fais quoi? Et puis tu vois que c'est partout pareil, mais tu vois qu'il ne se passe rien en haut quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'appel pour dire, bon ben on y va, on va leur serrer le kiki. C'est-à-dire, on va prendre le rapport de force et on va le faire quoi. Je veux dire, on va les mettre à genoux. Non, c'est pas ça. Moi je vais même te dire, hein, je vais être un peu sécos, hein. C'est... quelque part, ça fait soupape par rapport au mécontentement, ces journées d'action, mais c'est pas constructif, ça avance pas. Et quelque part, je vais même encore plus loin, à la direction confédérale, ils le savent. L'objectif, c'est de discuter avec Sarko, donc c'est de négocier avec lui en souterrain, etc., etc., et que le rapport de force, c'est juste pour mettre un coup de pression, mais c'est pas vraiment sérieux. C'est pour faire un symbole, parce qu'ils sont dans une optique. Ouais, je vais le dire comme ça parce que ça s'est dit dans d'autres pays, de coopération conflictuelle avec le gouvernement.
Toi, t'as l'autocollant là, la CGT,
ouais.
Aubervilliers, il y a le numéro de téléphone pour t'appeler directement.
Non, ça c'est la boîte, c'est l'union locale, non.
Et pourtant, quand on t'entend, on dit bah il n'est pas d'accord avec la CGT, lui.
Il y a deux orientations dans la CGT depuis toujours. T'as une orientation. Salut mon camarade, ça va? tu as une orientation qu'on va dire de collaboration de classe, de syndicalisme d'accompagnement, etc., etc., qui est le courant qui a la direction confédérale et à l'intérieur de la CGT, tu as un courant de lutte des classes. Tu as vraiment affrontement entre ces deux courants.
Vous savez combien de temps que tu es en colère après la CGT comme ça ?
Ah ben, moi, si tu veux, c'est une vieille histoire. Parce que moi, en fait, je viens de la CFDT dans le passé. Hein. Et j'ai quitté la CFDT parce qu'elle est devenue ce que c'est. C'est-à-dire un truc patronal de trahison, etc. Je suis venu à la CGT parce que, bon, la CFDT, elle a bien changé. Et la CGT aussi. Bon, parce que c'est pas la CGT des années 70 qui te cassait la gueule à l'entrée des usines. Ben, j'ai connu ça aussi. Hein. Mais c'était qu'elle avait changé, il y avait une ambiance, etc. Sauf qu'on est en train de revivre à l'intérieur...
Voilà
les goudières qui arrivent par les rues latérales. Là. Ah ouais, là ça va être chaud là. Parce que je suis venu à la CGT que je retrouve la même démarche qu'il y a eu dans la CFDT il y a 30 ans. Quoi. De secteur de lutte de classe, etc. Devenir le syndicalisme, un syndicalisme d'accompagnement et de co-gestion.
T'as le sentiment que la CGT vit en ce moment le recentrage qu'a vécu la CFDT il y a 20-30 ans.
Exactement. C'est exactement ça.
À quoi tu le vois, ça ?
Ben, à quoi on le voit ? On le voit, par exemple, tu lis le document du Congrès, faire un syndicalisme d'adhérents et pas un syndicalisme de militants, un syndicalisme où tu parles plus de lutte de classe, tu parles plus de rapport de force, tu parles de négociation. Enfin, je veux dire, Thibault, il a été 8 fois à l'Élysée depuis le début de l'année. Alors, il dit, oui, mais c'est normal, je dois le faire. Ouais, non, mais ok, mais il discute de quoi à l'Élysée ? Et qu'est-ce qu'il fait à côté ?
T'as fait les calculs ? Thibault est allé 8 fois à l'Élysée depuis le début.
Ouais, c'est pas les calculs. Tu vas sur le site de l'Élysée, tu fais une recherche Bernard Thibault, 8 fois, paf, terminé. Il y a pas, c'est clair et net. Hein. Je veux dire, j'ai pas inventé, hein. Site de l'Élysée, hein, c'est officiel. Hein. Je veux dire, les gens, ils veulent pas le croire. Et le mot lutte des classes est absent du document du Congrès. Et donc, le fait qu'il soit plus à l'Élysée que dans les luttes, ça reflète cette orientation. D'ailleurs, c'est même pas la question de Thibault en tant que tel. Hein. Moi, je m'en fous de Thibault. Hein. Salut, Ali. Ça va ? Je suis un peu chaud comme ça, mais...
Excusez-moi, je cherche Bernard Thibault. Vous n'auriez pas vu Bernard Thibault ?
Ben écoute, il n'est pas là, Thibault. Non, il avait rendez-vous avec Sarkozy aujourd'hui pour discuter de la relance industrielle de la France dans la compétition internationale. On est contre tout licenciement, alors qu'apparemment, Thibault, il serait pour aménager les emplois en France selon les besoins de l'industrie.
On va aller voir les CRS. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu Bernard Thibault ?
Bonne question, je ne sais pas être au flash, je ne sais même pas s'il est nu, non, je ne l'ai pas vu.
Vous l'avez pas vu ? Non. Ça, c'est un flashball, ça ?
Non.
C'est quoi, alors ?
C'est un lance-grenade.
C'est ?
Un lance-grenade.
Un lance-grenade, d'accord.
Lance-grenade.
Je ne suis pas spécialiste, moi. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu, je cherche Bernard Thibault ?
Ah non, bah non. Je ne pense pas qu'il soit là. Non, bah Bernard Thibault, on ne le voit plus depuis longtemps.
Et puis nous, on s'en plaint pas.
Pardon ?
On s'en plaint pas de pas le voir. Puisqu'il est maintenant du côté du gouvernement, bah, qu'il reste avec le gouvernement, puis après il verra ce qui se passera, puis c'est tout.
Et vous êtes de où, vous ?
La Meuse. La Meuse et la Haute-Marne, on est des départements en meurtrie, on est en train de nous enlever tous les emplois, hein, toutes les usines ferment une par une et personne ne dit rien, personne ne fait rien. On a des députés qui ne bougent pas leur cul. Hein, alors maintenant, bon, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra bien que ça bouge de chaque côté. Hein.
Vous êtes de quelle boîte dans la Meuse ?
Soletal. C'est une entreprise de métallurgie. On travaille pour Continental, Goodyear, Michelin. Et puis nous, on est touché le pain à feu.
C'est-à-dire que c'est eux, ils cannent, vous cannez derrière ?
Derrière, après. Allez, d'après. 2010, c'est prévu. 2010, c'est prévu.
Vous n'avez pas l'air d'être content de Bernard Thibault ?
Parce que c'est un vendu.
Quand il y a des manifestations, quand il y a des gens chez Goodyear, chez Continental ou ailleurs appellent à venir se présenter dans leur entreprise, il n'est pas capable de venir. Alors maintenant, bon, bah. Et puis quand on voit comment ça se passe quand il va à l'Élysée, bon, on comprend très bien qu'il est plus du côté du gouvernement que des salariés maintenant.
Vous pensez vraiment ça ?
Oh oui, ça je le pense. Je le pense et sincèrement. Très sincèrement. Ah oui, oui, oui.
Manif du 17 septembre avec les Conti, avec les Goodyear, avec aussi la rage, la colère et l'incompréhension et une colère en partie dirigée contre la direction du syndicat CGT. Et ce manifestant, rappelait en effet que depuis fort longtemps, peut-être depuis la charte d'Amiens, la CGT et les syndicats, les grands syndicats français et pas seulement français, sont divisés en deux tendances, l'une qui est réformiste et l'autre révolutionnaire, pour aller vite. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y a la tendance à ce syndicalisme d'accompagnement, de co-gestion, qui est là pour négocier avec le patronat, avec les directions des entreprises. C'est le cas des grands syndicats, par exemple, en Allemagne, où on se dit, ah, mais il y a un grand taux de syndicalisation, mais c'est ce genre de syndicat. Et puis, il y a toujours, au sein de la CGT, le courant lutte de classe, le courant plus radical qui entend changer les choses définitivement. Il y a ceux qui veulent rester dans le cadre et puis l'aménager, le bricoler, dénoncer les dérives, mais pour sans mettre le système lui-même en cause. Et puis il y a cette tendance plus radicale qui est inscrite, qui n'est pas nouvelle bien évidemment, qui est inscrite dans notre histoire au moins depuis la révolution industrielle au 19e siècle. Et ça continue aujourd'hui avec d'autres formes, d'autres rapports de force, puisque dans l'affrontement capital et travail, aujourd'hui, le monde du travail n'a plus la même force, n'a plus la même cohérence, justement, à cause de ces destructions d'emplois, à cause de ces délocalisations. Enfin, vous connaissez cette histoire, au moins, si vous écoutez de temps en temps la Basse-Vivie. Et c'est ça qui se retrouve dans cette rentrée qui donne une réponse à la question pourquoi si peu de réactions, pourquoi si peu de ripostes. Et là, ce 17 septembre, c'était donc dans la rue. Pour essayer d'éclairer un peu, on a, avec François Ruffin, rencontré Jean-Marie Pernaud, qui est chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, c'est-à-dire l'IRES.
Je vous explique la situation. Je cherche Thibault, donc je fais un micro-trottoir. Où il est Thibault? Et de manière spontanée, des CGTistes me répondent, il est au MEDEF, il est avec le gouvernement, il est à l'Élysée. D'ailleurs, le jour où il y a eu le jugement des Conti, il était avec Sarkozy à l'Élysée. Il est plus dans les luttes avec nous, mais se trouve à l'Élysée avec Sarkozy.
Oui, moi je pense que ça illustre quand même un problème du syndicalisme français, qui est qu'il a une visibilité institutionnelle extrêmement forte, et qu'effectivement les pouvoirs publics prennent garde de les rencontrer, etc., souvent de manière assez factice d'ailleurs, mais enfin, au fond, une sorte d'absorption du haut des syndicats dans les institutions. Je ne pense pas que la direction de la CGT soit totalement dupe des séances qu'elle passe chez Sarkozy et autres, parce que c'est pas très compliqué de voir que ça a quand même assez peu d'incidence sur la politique du gouvernement. Ils sont pris un peu dans ce jeu institutionnel dont ils ont du mal à sortir, et effectivement, aux yeux de leurs militants, ils apparaissent cantonnés à cette sphère institutionnelle et peu sur le terrain. C'est là aussi qu'on peut voir l'intégration. L'intégration, elle s'est faite aussi beaucoup dans les entreprises, où le reproche que font certains à la direction confédérale d'être toujours à l'Élysée, on peut le faire à beaucoup d'équipes syndicales qui sont toujours chez le patron. Dans les entreprises, vous prenez un certain nombre de grosses boîtes, vous demandez aux salariés ce qu'ils pensent des syndicats, bah, c'est des gens qu'on ne voit jamais dans les ateliers ou dans les bureaux, mais qui passent leur temps chez le patron à négocier les salaires, la durée du travail, l'épargne salariale, l'égalité professionnelle, la VAE, etc. Enfin, il y a tout un outillage de négociation dans les entreprises qui fait que, très souvent, les délégués, ils sont beaucoup plus souvent avec les DRH qu'avec les salariés. Hein. Le lien des syndicats listes à leur base sociale, c'est pas qu'un problème de sommet. C'est un problème que vous trouvez d'abord dans l'entreprise.
Quand j'entends Bernard Thibault, alors moi je ne l'entends qu'à la radio, mais quand j'entends Bernard Thibault ou quand je rencontre des gens qui sont dans son entourage, on va dire, à la Confédération, il y a la conviction de la faiblesse du syndicalisme et de la faiblesse de la CGT en particulier, de la faiblesse numérique. Et de ce fait-là, comme une autoparalysie, comme on n'est pas assez fort pour oser plus.
La CGT est passée d'une période avant les années 90 où elle exagérait sa force à une période où elle a intégré sa faiblesse. Alors est-ce qu'elle l'a intégrée exagérément? C'est vrai que sur le papier, quand on a un taux de syndicalisation à 5% dans le secteur privé, à 3% dans la métallurgie, tout syndicat confondu, l'état qu'elle fait de ses propres forces est effectivement extrêmement noir. Donc, alors, la question, c'est, est-ce que c'est un effort de lucidité qui inspire une stratégie prudente, ou est-ce qu'il y a trop d'intégration de cette faiblesse qui, au fond, la paralyse ? On sait bien que le mouvement syndical en France n'a jamais compté que sur ses adhérents. Ce qui en faisait la force, c'est qu'il avait une capacité d'entraînement sur des gens qui n'étaient pas syndiqués. Alors, par contre, je ne pense pas que la CGT soit fascinée par le modèle de la CFDT. D'ailleurs, on ne voit pas très bien pourquoi elle le serait, puisque ce n'est pas un modèle qui fonctionne tellement. La CFDT a beaucoup de difficultés. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle la CFDTisation, me laisse un peu sceptique. Et moi, ce qui me trouble quand même, c'est que dans le champ syndical, ceux qui sont les plus tenants de la grève générale sont ceux qui sont le plus éloignés des conditions de la mettre en œuvre. Ce sont les syndicats qui sont le moins bien implantés dans le privé. Force ouvrière, dans les entreprises privées, et quand même pas le plus fort, loin de là. Enfin, personne n'est très fort, mais Force ouvrière encore moins. Et Solidaire peine encore à trouver une base en dehors du secteur public ou de ce qui a été dans le secteur public. Donc, les syndicats... Alors bon, la CFDT, elle est contre de manière doctrinale. Et la CGT, toute seule, portait les forces pour une grève générale. Je suis un petit peu sceptique.
C'est pas l'idée, c'est pas notre studio, c'est pas dans les francophones, c'est pas notre
situation. Excusez-moi, vous avez vu Bernard Thibault ?
Voilà, on espère tous, évidemment, vous aussi, que notre François Ruffin finira par trouver Bernard Thibault. Merci à tous, merci à Daniel Sanchez, merci à Xavier Mathieu, Robert Pelletier, Jean-Baptiste Gallet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission La Basse du 18, où vous pouvez réécouter pendant 24 heures cette émission. Vous pouvez en savoir plus aussi, et d'une façon peut-être encore plus détaillée, dans Fakir, le journal dirigé par François Ruffin, qui se pose la question, la même question que dans cette émission, mais que font les syndicats et surtout leur direction. Il y a bien d'autres sujet dans ce numéro de Fakir. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Pierrick Mossigny et Rémi Quincez. C'est Coy Nguyen et Raphaël Moutherbe qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, disons-le, assistée d'Agnès Lebotte et Catherine Pinto. Attend vos messages qui vont être chauds et nombreux, nous n'en doutons pas. Au répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.